Le secteur de l'éducation en ce moment est en ébullition. Frais de SI, HSI, PSSA Act, Narnia Schooling. Est-ce que notre population est trop exigeante ou y a-t-il un vrai problème à la direction?
Au niveau opérationnel, certainement que le problème de fees des examens pose problème pour beaucoup de parents parce que c'est un imprévu et c'est beaucoup d'argent. Et les familles qui sont, la majorité des familles qui sont impliquées dedans, ce sont des familles modestes qui n'arrivent pas à trouver immédiatement de l'argent pour pouvoir payer les fees. Alors, ça, c'est un vrai problème. Je trouve que il faut certainement leur donner. Et on ne peut pas jouer avec l'avenir des enfants. Oui, indiscipline, il faut que quelque part ça commence avec un peu de discipline. Mais là, je suppose qu'on aurait dû de leur donner beaucoup plus de temps et de préavis avant de décider de les empêcher de prendre part ou de ne pas recevoir le timetable s'ils ne payent pas. Alors, ça, c'est un vrai problème au niveau opérationnel. Mais vous savez, en éducation, et c'est une dynamique vivante. Alors, il y en aura toujours des problèmes au niveau opérationnel. Mais le plus gros problème pour moi, c'est le système d'éducation dans une société multiethnique, multiculturelle.
D'accord. Nous en reviendrons. Par rapport aux fees d'examen, comment avez-vous donc accueilli la décision de la ministre de donner jusqu'à fin décembre et aussi d'accorder le droit aux parents de faire une application pour avoir de l'aide du National Solidarity Fund?
Non, moi je crois que la ministre veut instaurer une certaine discipline. Mais le problème d'absentéisme dans les collèges, et moi j'étais ministre dans les années 98, 99, 2000, et le problème était là à cette époque-là, et nous n'avions pas de solution à ce problème-là, vous comprenez? Mais oui, certainement, il faut qu'on fasse quelque chose, mais là, comme ça, à la va-vite, je trouve que c'est pas très indiqué. Et je pense, moi, que la ministre aurait dû être beaucoup plus flexible. Laisser ces enfants-là pour une dernière année, prendre part aux examens, et au début de l'année prochaine, faire les parents signer un contrat et où ils acceptent la responsabilité d'exiger que leurs enfants viennent à l'école. Et que s'ils ne viennent pas pour X nombre de jours pendant toute l'année scolaire, et qu'ils vont être punis.
Et que pensez-vous du refus de la ministre de bouger complètement devant la manifestation et tout le remue-ménage? Que pensez-vous de la décision d'être vraiment stagnant, de ne pas avoir...
Écoutez, je comprends la ministre, hein. Je comprends qu'on ne peut pas aujourd'hui que tout un chacun qui décide de se manifester. Et que comme je dirais, on plie, on se plie devant les manifestations. Ça, c'est un mauvais principe. Mais je pense que là, on n'a pas eu assez de délai et que le ministre aurait dû, surtout que, vous savez, on est en pleine réforme. En éducation, avec l'introduction de la Narnia Schooling, et déjà que c'est le monde éducatif est en ébullition, et créer d'autres problèmes n'est pas tout à fait indiqué. Donc la ministre aurait dû prendre tout ça en considération, essayer d'être un peu plus flexible, même si, en principe, je comprends sa position.
Et en fait, il y a eu pas mal de controverses autour du fait que la ministre n'a accepté un rendez-vous qu'avec une partie des étudiants, ceux qui réclamaient que la date soit retournée au 15 juillet, alors qu'elle n'a pas forcément voulu rencontrer ceux qui réclamaient que la décision soit complètement annulée, c'est-à-dire que la loi des 90% de présence soit complètement annulée. Que pensez-vous, qu'est-ce que vous faites de cela?
Écoutez, vous savez, elle a deux choix. Moi, je crois qu'elle avait deux choix. Et il y a une demande, la première demande, le premier groupe, la demande, c'est de tout annuler, pas vrai? Par contre, la deuxième groupe, c'est un peu plus flexible. Elle a décidé parce qu'en principe, elle n'était pas d'accord du tout pour l'annulation complète. Alors, elle a décidé de rencontrer ceux qui quand même, comme on dit en anglais, meet halfway.
Okay. Hmm? D'accord. Et bon, il y a deux semaines, vous étiez à une réunion de l'UPSI avec d'autres, avec d'anciens ministres de l'éducation. Pour quelle raison vous êtes-vous allé à l'UPSI?
Écoutez, dans, et vous me permettez de reprendre ce que j'avais proposé moi et dans mon plan d'action, hein, parce que nous avons assez d'informations sur le traitement que les professeurs du privé ont dans les collèges, dans certains collèges privés. Hein. Il y a une misère terrible. Et j'avais proposé le Central Employer pour les professeurs. Alors, il y a quand même une certaine sympathie de ma part pour les profs du privé qui font un travail admirable dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand la loi a été amendée, la loi sur la PSSA a été amendée, et que la représentation directe des syndicats du secondaire privé a été pratiquement abolie, hein, même si ça a été remplacé par le stakeholder in education, mais c'est un peu trop vague le stakeholder, alors que l'ancienne loi était spécifique. Pour la représentation, je pensais qu'il fallait quand même être présent, ne serait-ce que pour un appui, un support moral.
D'accord. Donc je comprends que c'est particulièrement pour le PSSA Amendment Bill que vous étiez présent.
Oui, absolument. Tout à fait. Oui.
Est-ce que vous avez signé la pétition que l'UPSI a fait circuler?
Non, je ne voulais pas, parce que je voudrais garder mon indépendance contre. Totalement.
D'accord.
Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne suis mêlé à aucune démarche politique partisane. Je préfère garder mon indépendance. Je me trouve bien dans cette indépendance. Alors, je me prononce comme aujourd'hui, sur n'importe quoi, avec lucidité, avec objectivité.
D'accord. Et l'UPSI compte aussi déposer un dossier devant l'ICAC par rapport au conflit d'intérêts qu'ils voient, eux, entre le directeur de la PSSA et la ministre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce qu'ils ont raison de...
Vous savez, c'est légal. Hein? Là, on est sur un plan légal. Mm-hmm. Et vous savez que la loi de l'ICTA, de la anti-corruption, hein? Mm-hmm. Authority, c'est très, très, très ouverte, hein? Et que n'importe quoi peut être interprété comme étant un conflit d'intérêts. Alors moi, il n'y a que les hommes des lois qui peuvent dire si c'est un conflit d'intérêts ou non.
Mais je ne sais pas si moralement ça se dit, mais peut-être de votre point de vue, est-ce que c'est correct qu'il y ait eu cette entente entre le ministère, enfin cet amendement du ministère au PSSA Act, alors que c'est quand même son époux? Qu'est-ce que vous faites de ça?
C'est imputing motives. Hein? L'anglais a une expression qu'on appelle imputing motives. Pas parce que je suis le mari de ma femme et que je me trouve dans une position d'autorité où je dois travailler avec elle, que ça doit m'empêcher de travailler dans l'objectivité.
Et sinon, bon, j'ai compris que c'est surtout le nine-year schooling qui retenait votre attention.
Oui.
Aussi, vous avez parlé d'un cliché qui s'est formé autour du nine-year schooling. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que vous voulez dire?
On en a tellement parlé de nine-year schooling. Right? Ça a commencé avec le ministre par soi-même. Et subséquemment, je suis venu, moi, mettre tout ça. Alors, par soi-même l'a mentionné et dans un document. Moi, j'ai emmené un action plan pour mettre en opération un nine-year schooling system avec l'admission et dans ce qu'on appelle les middle schools. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de middle schooling. Hein? Et en parenthèse, je dis pourquoi middle school? Parce que je savais que le système à sélection que représente la centrale, la CPE, c'est un système qui a détruit l'enfance pratiquement. Et qu'il fallait quand même récupérer les jeunes, la jeune adolescence dans une institution scolaire spécialisée pour cette tranche d'âge. C'est ça le middle schooling. Rien ne s'est passé. Il y a eu beaucoup de, beaucoup d'objections, beaucoup de stabbing, hein, et que finalement, elle s'est restée comme ça, comme c'était toujours. Et d'autres ministres sont venus après moi, Obigadou, Gokul, Bonnoirie, et malheureusement, rien n'a changé. Okay? Et qu'aujourd'hui, quand la ministre vient et en parle, on a l'impression, tout le monde a l'impression que c'est Dieu même, le même vin, dans une nouvelle bouteille, etc., etc. Alors, c'est pourquoi je dis que finalement, malheureusement, et le concept même de New Schooling est devenu une espèce de cliché. Alors, hier même, ou avant-hier que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre en a parlé, sans naturellement trop de détails, mais parler justement de New Schooling, comme si tout le monde sait qu'est-ce que c'est que ça. Mais ce n'est pas vrai. Alors, ça, c'est le vrai débat aujourd'hui. Nous avons besoin des réformes profondes dans notre système éducatif. Le temps change. Nous sommes entrés dans une perspective, dans les perspectives d'un monde globalisant, et que l'île Maurice ne peut pas rester bloquée dans le passé.
Vous parlez d'un besoin de réforme. La semaine dernière, nous avons aussi fait un volet sur l'école. L'école qui serait peut-être l'école de demain. Pour vous, c'est quoi l'école de demain?
L'école de demain, c'est quatre objectifs. Premier, c'est la formation du caractère de l'enfant. C'est character, je le dis en anglais, c'est character, competence, creativity et compassion. L'école doit créer des passerelles, des pathways, comme on dit en anglais, à travers la pédagogie, à travers le programme scolaire, pour mener les enfants à ces quatre critères principaux: caractère, compétence, créativité et compassion.
Est-ce que d'après vous, le Narnia Schooling nous amène un peu plus près de ça?
C'est un début. Ne serait-ce que l'élimination de cet élément de sélection qui divise et qui tue dans le temps, ne serait-ce que ça, c'est un très bon début. Mais je ne dis pas que c'est parfait, et on ne peut pas parler de perfection en éducation. Non, on ne peut pas parler de perfection. Et c'est un chantier dynamique que la société, toute autre société responsable, doit suivre de près et faire les ajustements nécessaires quand ça s'avère nécessaire.
Et par rapport toujours au Narnia Schooling, quel regard jetez-vous sur l'accent mis sur les Tivets dans ces programmes?
L'accent mis sur?
Sur les Tivets, donc Technical and Vocational Education Training.
Vous savez, là, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas les filiarisations prématurées. Je privilégie, moi, des objectifs linguistiques, des objectifs culturels, artistiques et sportifs, des objectifs scientifiques et technologiques, y compris l'informatique, et des objectifs écologiques et économiques, sans qu'il y ait une certaine emphase sur une filière ou l'autre filière. Je voudrais ajouter que nous avons ici fait beaucoup de mal aux humanités et que l'obsession avec les sciences naturelles a détruit la lecture, la littérature, l'histoire, la géographie. Et qu'il faut remettre tout ça, remettre de l'ordre dans tout ça.
Mais quelque part, est-ce que vous pensez que justement mettre l'emphase sur des cours plus professionnels, beaucoup plus tôt, ce serait une solution à cet accent qu'on met sur les sciences, sur le...
Non, je dis que là, nous parlons qu'uniquement du Narnia Schooling, qui veut dire pratiquement de l'âge de, disons, 5 ans à 14 ans,
d'accord,
de cette tranche d'âge qu'on est en train de parler. Et je trouve que la vocation de l'école pour cette tranche d'âge n'est pas de créer des boulons pour des chaînes de production. La vocation de l'école à cet âge-là, c'est de créer des citoyens de demain, des citoyens de caractère, des citoyens de valeur, des citoyens imbus de générosité et de partage.
Et bon, pour terminer, politique, donc à un moment, on a évoqué votre rapprochement avec le MSM. Qu'en est-il?
Mais c'est pas vrai. Je ne sais pas où ce journal qu'il a écrit, c'est l'Express qu'il a écrit, hein. Et vous-même, hein, vous l'avez écrit. Non, j'ai rencontré Pravin Jagnat, je crois que deux fois dans ma vie. Une fois quand nous étions candidats en 2010 aux élections générales, quand on a été prendre des photos à Vivekananda, je l'ai vu, je l'ai salué. Et je l'ai rencontré une fois, je crois, un meeting quelque part, mais puis jamais on a eu l'occasion de se parler, et je ne le connais pas. Par contre, Aniro Jagnat, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, pour l'homme qu'il était quand moi j'étais ministre dans son cabinet, et ce qu'il a fait pour le pays, hein, certainement. Non, c'est pas vrai, vous savez. My face is a book. Hein? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non.
D'accord. Okay. Et justement, par rapport à Aniro Jagnat, que pensez-vous du passage du poste de Premier ministre à Pravin Jagnat? Que pensez-vous de ça?
Vous savez, l'anglais vous dit que nous aimons faire a mountain of a molehill. Si nous acceptons, c'est une très bonne question, je vous en remercie. Hein? Si nous acceptons que notre système de gouvernement calqué sur le modèle Westminster est ce qu'on appelle un representative governance. Si on accepte que nous avons un système de representative government and representative governance, qui veut dire chaque parlementaire d'aujourd'hui représente une partie du peuple. Et que si, dans ma logique à moi, c'est mon opinion personnelle, quel que soit ce que prévoient les lois, etc. Alors, si une majorité de ceux qui sont les représentants du peuple, élus démocratiquement, décident de soutenir Pravin ou n'importe qui, Pravin Jagnat ou n'importe qui, comme Premier ministre, je trouve malséant que des gens qui ont été boutés de leur bastion politique venir remettre ça en question.
Merci beaucoup, Monsieur Pillet.
Yeah.